France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une famille qui demande justice et vérité, celle de Lola. Ouverture ce matin du procès de Dabia Benkireb, accusée du meurtre de la jeune fille de 12 ans. Nous sommes sur place. L'heure de la décision à la cour d'assises du Tarn, Cédric Jubilard est-il coupable? Jurés et magistrats délibèrent. Que se joue-t-il dans le secret de ces délibérations? Le président du tribunal d'Albi sera notre invité. À suivre encore, la voiture d'un célèbre journaliste italien visé par une explosion. Il est indemne, le parquet anti-mafia saisi, nous serons à Rome. Direction Barcelone également, bonjour Henri de Laguéry.
Bonjour Jérôme.
La star du Barça, Lamine Yamal, fait parler de lui.
Effectivement, et les supporters catalans en seront pour leurs frais. Fini les autographes à la sortie de l'entraînement. Yamal veut garder la main sur ses signatures, mais aussi freiner la revente des autographes. Ça ne plaît pas aux fans du Barça, vous allez entendre.
Des autographes payants donc pour la star du foot espagnol. À tout de suite. Nous verrons que le Secours catholique est en train d'en passer par un plan social, le premier de son histoire, et que la bonne mère à Marseille est sur le point de retrouver sa couronne.
La couronne, c'est la dernière chose qui nous restait à dorer, et on n'a qu'une hâte, c'est de l'avoir vraiment entière. Elle va vraiment rayonner et on va être vraiment, entre guillemets, ébloui.
Reportage à suivre à partir de 13h30. Elle aussi nous a ébloui. La navigatrice Violette d'Orange est notre invitée, inoubliable chroniqueuse ici même, durant le Vendée Globe Tour du Monde, qu'elle raconte dans son carnet de bord. Elle nous parlera aussi de la Transat à laquelle elle va participer dans quelques jours. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. On va rester au large avec Virginie Troussier qui nous parle des cartes marines si poétiques. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Les humoristes Eric et Quentin demandent Pump Up the Jam.
En fait, the jam, c'est la musique, c'est le son en fait.
Oui.
Ça veut dire pousse le son en fait. Pousse le son, pousse le son.
Ce qui est une figure de style, parce qu'un son ne se pousse pas. Mm. Hein, évidemment, c'est le volume. On pousse le volume du son.
Ouais, c'est ça, Pump Up the Jam. Mm. C'est fête la fête.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. Avant de venir à l'actualité judiciaire très riche en cette matinée, je voudrais vous donner des nouvelles d'un homme dont le témoignage nous a marqué cette semaine, Patrick Boitelet. Cet homme de 59 ans vit grâce à un cœur artificiel Carmat, mais il était en sursis car l'entreprise est au bord de la faillite. Victor Dolande, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous nous avez raconté son histoire. Mardi matin, Patrick Boitelet vous disait « J'attends une grève, je suis en train de mourir ». Eh bien, il a été greffé du cœur, c'est fait.
Oui, il a été appelé avant-hier soir par l'hôpital parisien Georges Pompidou pour lui annoncer la bonne nouvelle, nous avons un cœur. Il est entré dans la nuit au bloc opératoire pour la transplantation. Une très lourde opération. Patrick Boitelet est ressorti du bloc hier à 16h et a été immédiatement plongé dans un coma artificiel. C'est normal, c'est la procédure. Sa cardiologue qui le suit depuis des années, Anne-Céline Martin, nous explique combien les prochains jours vont être décisifs.
C'est une chirurgie extrêmement lourde. Les patients sont de façon obligatoire en réanimation chirurgicale. Les premières heures, les premiers jours, les premières semaines sont des moments évidemment à risque avec un risque potentiel de saignement, un risque potentiel d'infection, un risque d'insuffisance rénale. Et donc tout ça doit être monitoré heure par heure dans des services dédiés, des équipes dédiées.
Et quand il aura passé ces 10 jours à risque, il devra ensuite aller dans un centre de rééducation cardiaque de longs mois pour apprendre à vivre avec ce nouveau cœur. Mais sa médecin est catégorique. Sans ce cœur artificiel Carmat, il n'aurait jamais eu la possibilité d'une deuxième vie.
Pouvoir bénéficier de cette technologie, c'est une chance pour les patients et c'est une chance de vie. Ces patients qui seraient décédés s'ils n'avaient pas pu bénéficier du cœur Carmat. Donc c'est une vraie alternative et une vraie chance de vie pour ces patients.
Patrick m'a déjà confié la suite. Après ce long parcours, il veut épouser une deuxième fois sa femme Marilyn. C'est elle qui l'a convaincu de porter un cœur artificiel Carmat.
Victor, beaucoup de malades, on le sait, sont en attente de greffe. Comment est-ce que les médecins font leur choix? Ce n'est pas lié, je suppose, à la médiatisation des cas.
Non, absolument pas, Jérôme. C'est l'agence de biomédecine qui régule l'attribution des greffons cardiaques. Il y a des règles très strictes fondées sur l'urgence et l'équité. Et comme Patrick Boitelet était gravement malade et assisté d'un cœur artificiel depuis près d'un an, il était tout en haut de la liste. Mmh. Il n'y a donc eu aucun passe-droit.
Information et récit signé Victor Dolande. Venons-en maintenant à l'un des deux procès qui fait la une aujourd'hui, celui de Dabia Benkired, cette jeune Algérienne de 27 ans jugée à Paris pour le meurtre de la petite Lola, 12 ans. C'était en 2022 dans le 19e arrondissement de Paris. Meurtre particulièrement sordide, elle est aussi accusée de viol, de torture et d'actes de barbarie. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter, procès qui a commencé ce matin par un moment extrêmement fort. L'accusé a demandé pardon.
Dabia Benkired n'hésite pas quand le président du tribunal lui offre de s'exprimer. « J'aimerais demander pardon à toute la famille. C'est horrible ce que j'ai fait, je regrette. » Ce qui frappe, c'est cette petite voix douce, presque enfantine, qui tranche avec l'horreur du récit des faits qu'a déroulé juste avant le président, les sévices infligés à Lola et son agonie. Dabia Benkired, sa petite voix, son apparence aussi, à mille lieues de la photo des réseaux sociaux, saturée de filtres où on la voit fine, surmaquillée, hyper apprêtée. Elle a pris du poids, t-shirt blanc, gilet noir, cheveux très tirés, aucun maquillage. C'est ensuite la mère de Lola qui s'avance, appelle son fils, qui se tourne vers l'accusé et lui demande en toute dignité, au nom de toute ma famille, au nom de mon père qui n'est plus là, on voudrait la vérité pour toute la France et pour nous. Dabia Benkired essuie ses yeux.
Dans quel climat, Delphine, l'audience se tient-elle? Comment sont passées les premières heures? On se pose la question, car on se souvient que la mort de Lola avait suscité il y a 3 ans un débat et des récupérations politiques.
Oui, Jérôme, on est très loin de l'atmosphère politique électrique d'il y a 3 ans. Le président du tribunal est tout en délicatesse pour s'assurer de la sérénité des débats. C'est votre procès, dit-il à l'accusé. Nous cherchons la vérité. N'hésitez pas à vous exprimer, lui explique-t-il calmement. Au fils qui veut pouvoir regarder l'accusé dans les yeux, ce n'est pas l'usage. Il accepte seulement si l'échange reste serein. La famille de Lola a refusé le huis clos parce que la justice, dit-elle, se rend au nom du peuple français qui doit entendre ces débats qui sont pour l'instant donc sereins. Ce matin, quelques militants d'extrême droite se sont rassemblés devant le tribunal avant de repartir sans heurts au bout de quelques minutes.
Delphine Evenou en direct au Palais de Justice de Paris. Là, c'est l'heure de décider dans le huis clos du tribunal d'Albi. Les 6 jurés, accompagnés de 3 magistrats de la cour d'assises, se sont retirés ce matin pour délibérer et répondre à cette question. Cédric Jubilard est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, donner volontairement la mort à son épouse Delphine. En cas de culpabilité, il leur faudra aussi déterminer une peine. Les avocats généraux ont demandé 30 ans de réclusion. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place. Jean-Philippe, l'accusé a pris une dernière fois la parole ce matin, très brièvement.
Ah oui, je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine, phrase laconique, à l'image d'à peu près toutes les réponses qu'il a apportées à la cour d'assises depuis 4 semaines, les fameux tout à fait, absolument, je ne me souviens plus, je ne sais pas, au-delà desquels avocats et magistrats n'ont pas réussi à l'emmener.
Alors, le sort de Cédric Jubilard, Jean-Philippe, est entre les mains, je l'ai dit, de 9 personnes. Est-ce qu'elles prennent leur décision à l'unanimité, à la majorité? Comment ça se passe?
Alors, c'est ce que l'on appelle une majorité qualifiée. Elle est fixée à 7 voix sur 9 pour toute décision défavorable à l'accusé. Alors, par exemple, au premier tour de vote sur la question de la culpabilité de Cédric Jubilard, il faudra au moins 7 oui pour qu'il soit reconnu coupable du meurtre de Delphine. Si 3 membres de la cour votent non ou glissent dans l'urne un bulletin blanc ou nul, alors Cédric Jubilard sera directement acquitté. Ce sont des votes à bulletin secret, donc chacun garde jusqu'au tout dernier moment le pouvoir de faire pencher son intime conviction sur l'un ou l'autre des plateaux de la balance de la justice. Ensuite, si le premier oui l'emporte sur cette question de culpabilité, les 9 membres de la cour d'assises, passeront au vote sur la peine, en commençant par la peine maximale encourue par Cédric Jubilard, la réclusion criminelle à perpétuité. Et là encore, il faudra cette même majorité de 7 voix pour que le vote soit validé. Si ce n'est pas le cas, on passera à la peine inférieure, 30 années de réclusion criminelle, et ainsi de suite. Enfin, il reviendra à la fin, à la présidente de la cour d'assises, de convenir avec le jury des éléments qui figureront dans la feuille de motivation du verdict qui sera co-signé avec le premier jury.
Pour en savoir plus, à vos côtés, Jean-Philippe Degnaud, se trouve Jérémy Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du tribunal judiciaire d'Albi. Vous avez vous-même été président de cour d'assises, donc vous avez vécu ces délibérés. Comment est-ce que ça se passe? Tout le monde prend la parole, chacun son tour et ensuite on vote?
Alors sur cette question, il y a en fait 2 temps, puisqu'il y a aussi plusieurs questions, mais sur les 2 temps, il y a un temps de délibération et il y a un temps de vote. Dans le temps de délibération, il y a un échange où chacun à égalité va donner son argument, sa position. Et puis après, il y a le temps de vote où là, un bulletin secret va poser dans l'urne soit un oui, soit un non, et notamment à la première question qui sera posée. Et puis si la première question c'est un oui, on va décliner aussi les autres questions par la suite avec un temps de délibération à chaque fois.
Tout le monde prend la parole, tout le monde avance ses arguments. Les jurés populaires, les 6, mais aussi les 3 magistrats.
Exactement, c'est souvent un tour de table qui s'effectue assez facilement, où chacun va se nourrir des arguments des autres, va compléter, va nuancer, mais généralement le président de la cour d'assises est vigilant à ce que le temps de parole soit respecté et que chacun puisse s'écouter. Bon, les jurés ont eu le temps de se connaître maintenant depuis 4 semaines, de connaître aussi les magistrats professionnels, donc j'allais dire, il y a déjà eu des échanges, je suppose, pendant ces 4 semaines-là, et ce qui permet voilà, à chacun, s'il y a des questions, de toute façon, d'avoir des réponses au plus vite, notamment par les magistrats professionnels.
Alors, chacun une voix, évidemment, mais les magistrats n'ont-ils pas un rôle prépondérant ? On dit souvent que le président ou la présidente joue un rôle majeur dans ces délibérés.
Alors, la pratique qui est faite, c'est que finalement, ce sont les jurés qui prennent d'abord la parole, souvent le premier juré, et puis en fait, le président ne s'exprime qu'en dernier lieu. Donc, le président peut déjà connaître la position de chacun, et puis le fait qu'il y ait les délibérations soient distinctes du vote, comme c'est un vote à bulletin secret, finalement, chacun peut changer d'avis au dernier moment, et puis faire une position différente, ce qui fait que il n'y a pas de prépondérance de l'un ou de l'autre.
Mais c'est vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que tu as mal interprété tel témoignage, c'est comme ça que ça se passe, c'est un peu un échange direct.
Ah, tout à fait, c'est aussi l'objet du débat judiciaire comme on a pu le voir pendant toutes ces 4 semaines-là. C'est-à-dire que certains pensent que cet élément est à charge, d'autres diront que c'est à décharge. Donc après, il y a le respect de chacun, on le dit aussi, hein, on ne s'impose pas en criant, on s'impose par des arguments, par un raisonnement. Et donc le président, le plus souvent, appelle à l'apaisement si la situation s'envenime.
Ça vous est arrivé dans votre carrière d'assister à un retournement de situation totale on rentre, il y a un tour de table et on a l'impression qu'il y a une majorité pour l'acquittement ou pour la culpabilité, puis au bout de quelques heures, ça s'inverse.
Ah, tout à fait, parce qu'au moment du délibéré, évidemment, il faut être attentif à tout ce qui est dit par les autres. Donc, en plus, quand les faits sont contestés, il y a potentiellement des positions de chacun. Quand les faits sont reconnus, c'est plutôt simple. Après, sur la peine, il y a le système de vote aussi. C'est-à-dire, s'il y a des tensions, à un moment, on passe au vote, ce qui permet à chacun de s'exprimer en totale liberté, puisque c'est lui, avec sa responsabilité, sa conscience, qui met son bulletin, quelle que soit sa position, dans l'urne.
Il y a eu énormément de commentaires autour de cette affaire. Elle est extrêmement médiatique, l'une des plus médiatiques de ces dernières années. Est-ce que la présidente va avoir un mot ou aura un mot pour dire aux jurés, attention, vous ne laissez pas influencer, c'est à vous de prendre votre décision vraiment personnellement ?
Alors la pratique, c'est que souvent, le président le dit dès le départ, en disant, de toute façon, les débats sont oraux, on n'aura pas accès au dossier. Donc bien noter tout ce qui a été dit, surtout sur un procès de 4 semaines, où finalement les jurés ont pris un certain nombre de notes. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'ils doivent nourrir leurs réflexions et faire connaître leur position.
Un dernier mot, Jérémy Blanc, vous qui êtes président du tribunal judiciaire d'Albi, est-ce que vous êtes attaché à cette justice populaire ? On sait qu'elle est remise en cause aujourd'hui, que désormais, certains crimes sont jugés par des magistrats uniquement dans une cour criminelle et plus aux assises. Est-ce que vous le regrettez ?
Alors pour les faits les plus graves, hein, c'est le choix du législateur de maintenir un jury de jugement. On se nourrit aussi de l'expérience des jurés. La justice est rendue au nom du peuple, c'est aussi rendre honneur au peuple de l'inclure dans sa justice. On sait aussi qu'il y a une crise de confiance, c'est aussi permettre de dire que la justice reste humaine, d'inclure et de dire qu'il y a encore une justice rendue par des citoyens. Et donc il y a aussi d'autres juridictions qui ont lieu, qui font appel aussi à des personnes extérieures. J'allais dire, on se nourrit aussi des parcours de chacun, des positions de chacun. Donc évidemment, moi je dirais, c'est aussi cette façon de continuer à nouer un lien avec nos citoyens.
Merci Jérémy Blanc d'avoir accepté notre invitation, président du tribunal judiciaire d'Albi, alors que les jurés et les magistrats sont en train de délibérer dans le procès de Cédric Jubilard. Merci également à Jean-Philippe Degnaud qui nous livrera le verdict dans les prochaines heures, dès qu'on le connaîtra. Merci également aux moyens techniques à Albi de Frédéric Kérou. Deux jeunes Alsaciens, 18 et 17 ans, sœurs et frères, mis en examen pour harcèlement et complicité. Ça se passe à Mulhouse. Ils sont soupçonnés de s'en être pris à une jeune de 17 ans qui s'est donné la mort en début de semaine. Cette jeune fille avait porté plainte dimanche pour harcèlement. La jeune fille de 18 ans a été écrouée, son frère placé en centre éducatif fermé selon le procureur. Les faits se sont déroulés en dehors de l'école. Une explosion la nuit dernière au sud de Rome et voilà l'Italie replongée plus de 30 années en arrière quand la mafia multipliait les attentats. Une bombe a détruit la voiture de l'un des journalistes italiens les plus célèbres. Il s'appelle Sigfrido Ranucci et l'explosion s'est produite devant sa maison, mais il n'a pas été touché. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
En direct de Rome, Ranucci, Bruno, est connu pour être un journaliste d'investigation à la télévision italienne.
Et il raconte lui-même cet attentat, interviewé par la RAI cette nuit chez lui à une heure de route de Rome.
Un engin a été placé entre la voiture et la grille de la maison. L'explosion a été très forte. D'après ce que m'ont dit les artificiers, probablement un kilo d'explosifs rudimentaires pour un feu d'artifice. Les voitures sont quasiment détruites.
Le parquet antimafia mène l'enquête. Ranucci et sa fille étaient rentrés chez eux peu avant l'explosion. Alors Sigfrido Ranucci a 64 ans, il vit déjà sous escorte. Entre autres menaces, des projectiles avaient été retrouvés devant son domicile l'an dernier. Il est l'animateur de l'émission Report sur la RAI qui traite de tous les sujets délicats liés à la mafia en particulier. Il a eu maille à partir aussi avec le gouvernement Meloni qu'il critique sans détour. Mais Giorgia Meloni a très vite, sans réserve, condamné cette attaque. Idem pour le ministre de la Justice.
Solidarité totale et inconditionnelle. Nous combattrons avec détermination toute forme d'intimidation mafieuse. La liberté de la presse est la première expression de la démocratie. Un attentat contre un journaliste, c'est un attentat contre l'État à 100%.
Un journaliste est un attentat allo Stato al 100%.
Cet après-midi, un rassemblement aura lieu devant le siège de la RAI.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. En Espagne, l'enquête sur la mort du fondateur du groupe Mango est relancée. Les policiers pensaient au départ qu'il avait fait une chute mortelle lors d'une randonnée. C'était en décembre dernier près de Barcelone. Mais selon la presse espagnole, ces enquêteurs travaillent désormais sur un homicide et son propre fils pourrait en être l'auteur. Isaac Andic avait 71 ans. Il a créé l'entreprise Mango de toutes pièces. C'est l'une des marques de mode les plus connu au monde avec ses 2800 magasins.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La première avait été glaciale, la deuxième plus chaleureuse. Quelle sera la température ce soir 19h dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington lors de la rencontre Trump-Zelensky. Surprise, le président ukrainien vient pour convaincre son homologue de lui vendre des missiles Tomahawks qui lui permettraient de frapper les Russes en profondeur. Problème, le président russe Vladimir Poutine l'a devancé. Il a appelé Donald Trump hier soir. Les deux hommes ont même convenu d'une rencontre dans les deux prochaines semaines et elle aurait lieu, selon le président américain, à Budapest, en Hongrie, chez le Hongrois Viktor Orban. Bonjour Florence Labruyère.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Budapest. Orban, Florence, c'est le meilleur allié de Poutine sur le continent.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce matin, à la radio hongroise, Viktor Orban s'est félicité en disant à propos de ce sommet, c'est une excellente nouvelle. Depuis le début de la guerre, Viktor Orban dit qu'il faut un sommet entre les deux grands. Il répète que Kiev devrait déposer les armes et que l'Ukraine ne gagnera jamais face à une Russie trop puissante. Et il reproche aussi à l'Union européenne de pousser les Européens à entrer en guerre aux côtés de Kiev. En cela, Viktor Orban reprend presque mot pour mot les arguments de Vladimir Poutine. Et puis, en plus, la Hongrie refuse de livrer les armes à Kiev. Alors, toutes ces raisons font que Viktor Orban était jusqu'ici très isolé à Bruxelles. La majorité des dirigeants des 27 États membres le soupçonnent d'être le cheval de Troie de Vladimir Poutine en Europe. D'ailleurs, certains pays ne partagent même plus les informations de leurs services secrets avec la Hongrie. Donc, cette rencontre annoncée entre Trump et Poutine, c'est la revanche de Viktor Orban sur l'Union européenne. Il peut dire « j'avais raison ». Et si ce sommet a bien lieu, eh bien, cela lui permettra de briller sous les feux de la rampe et de se présenter en artisan de la paix.
Merci Florence Labruyère en direct de Budapest. Réaction de la Commission européenne ce matin à cette rencontre. C'est une bonne chose à condition qu'elle fasse avancer le processus de paix en Ukraine. Fin de citation. À Madagascar, le colonel Randria Nirinade est désormais président. Il a été investi ce matin, quelques jours après avoir renversé l'ex-président Andry Rajoelina en fuite à l'étranger. L'armée a pris le pouvoir après 3 semaines de manifestations portées notamment par les jeunes. Ce matin, plusieurs délégations étrangères, celles des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie, mais aussi de la France, ont assisté à cette investiture. C'est un chiffre qui nous était resté dans l'oreille il y a 10 jours. Un quart des associations de solidarité françaises sont menacées de disparition, nous expliquait une enquête de la Fédération des acteurs de la solidarité. Cas concret aujourd'hui, Le Secours catholique prépare un plan de licenciement. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
130 personnes sur 960 vont être licenciées.
C'est la première fois en presque 80 ans d'existence que le Secours catholique doit se séparer d'une partie de ses salariés. Un coup de massue, alors que l'association est en déficit structurel, récemment pointé du doigt par la Cour des comptes. Des réunions du Conseil social et économique s'enchaînent en ce moment. Encore aujourd'hui, Jean Minet, élu CFE-CGC, assiste aux négociations. Il attend plus de soutien du gouvernement.
Un État et des collectivités territoriales qui espèrent que les associations vont financièrement se substituer à leur mission, alors que ce n'est pas possible. D'accord, il y a la dette, mais après il y a des choix à faire. Si le choix est porté sur la diminution des aides aux associations, ça va être une catastrophe.
À ces baisses d'aides ces dernières années s'ajoutent aussi de plus en plus de personnes en difficulté à prendre en charge et des dons en berne, comme l'explique Adélaïde Bertrand, directrice générale du Secours catholique.
Le nombre de donateurs, en fait, ne cesse de baisser. Depuis plusieurs années, nos ressources deviennent de plus en plus instables. C'est comme ça qu'au cours des 16 dernières années, nous avons accusé 11 exercices déficitaires, tout en prenant quand même des mesures pour réduire fortement les charges.
Elle assure que cette restructuration est la seule solution pour sauver l'association qui travaille avec 60 000 bénévoles. La directrice générale appelle aussi à une grande campagne de dons.
Mathieu Bonnour, l'histoire a débuté en 1720 à Grenoble, celle de l'entreprise Tesser, connue pour ses sirops. Eh bien, la production en Isère à Crolles va s'arrêter, elle sera déplacée au Havre. 205 postes seront supprimés au printemps prochain. Il ne restera plus sur place que le siège et les activités commerciales. L'objectif du groupe, c'est de réduire les coûts face à des ventes qui chutent depuis 10 ans, nous précise le communiqué de la direction, ce qui n'atténue pas l'incompréhension des salariés, comme Sandrine Quintana.
Bah alors moi, c'est un tsunami dans ma tête. Il y a tout qui se mélange. Voilà, c'est une catastrophe. On se remémore surtout cette deuxième famille qu'on a à chaque fois qu'on passe le portail, parce que vraiment c'est une deuxième famille. Historiquement, 300 ans, une boîte comme ça, on se dit non mais c'est pas possible que le site de Crolles va fermer. Et puis du coup on pense à plein de choses et on se dit c'est juste dégueulasse. La direction ait pu nous faire quelque chose comme ça.
Cette salariée de Tesser au micro d'ici Isère, les salariés se sont donné rendez-vous lundi matin devant le site avec les représentants du personnel avant que ne commencent les négociations. On parle très souvent de l'épuisement des médecins à la campagne, isolés et débordés par la tâche, moins fréquemment du quotidien des vétérinaires. Or, ils vivent difficilement les crises qui secouent le milieu agricole. Ainsi, dans la Creuse, Marie-Astrid Guégan a suivi Vincent Calmels. Il est vétérinaire, il reconnaît que le département de la Creuse s'est emparé du sujet avec un plan veto lancé il y a 3 ans, mais il décrit des journées harassantes.
2 jours et nuit sur 3, Vincent Calmels est de garde, c'est-à-dire que 2/3 du temps, le vétérinaire peut être dérangé à tout moment.
Quand je prends ma douche, j'ai mon téléphone tout le temps sur moi, il est allumé 24h/24. C'est extrêmement aliénant. Peu de médecins, même des médecins de campagne, n'assurent pas un niveau de garde aussi élevé. En termes de pénibilité, c'est un truc qui nous rend fous.
Vincent Calmels raconte une intervention dans une ferme il y a quelques jours. Il s'est retrouvé allongé dans le fumier en pleine nuit pour aider une vache à mettre bas lors d'un vélage difficile.
À travailler comme je travaille avec un nombre de gardes aussi importantes, aussi éprouvantes physiquement, ça a eu un impact sur ma santé physique, ça a eu un impact sur mes relations familiales. Et au final, je me retrouve à 54 ans, célibataire, avec des revenus qui sont tombés très bas.
3000 euros net par mois, ces temps-ci, pour 80 heures par semaine. Et ça varie en fonction des crises agricoles. Il y a 6 ans, le vétérinaire d'Ain est tombé à 1500 euros net mensuel.
Moi, j'ai connu depuis que je suis sorti de l'école, à peu près depuis 25 ans, crise sur crise agricole, chute des revenus, suicide en cascade, fermeture d'exploitation agricole, et même mes confrères vétérinaires, les uns après les autres, abandonner la rurale pour se consacrer entièrement à la canine.
Vincent Calmels propose une solution, qu'une partie des salaires des vétérinaires soit payée par l'État.
Un reportage ici Creuse, à Lyon, c'est un rapprochement inattendu qui s'annonce et il est demandé par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Rapprocher le TNP, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, une institution publique, avec le Pôle Pixel, qui lui regroupe dans la même ville 150 structures et professionnels du jeu vidéo, du numérique, de l'image et du cinéma. C'est-à-dire que le théâtre et les écrans devraient travailler main dans la main. Ça, c'est le projet que la ministre est venue présenter ce matin. Elle a été accueillie plutôt fraîchement, Mathilde Imberti.
Visite d'une heure pour Rachida Dati dans les coulisses du TNP, institution depuis 1972, rappelle la ministre.
Le TNP, c'est une aventure, nourrie évidemment par les figures qui ont marqué l'histoire du théâtre français. Jean Vilar, bien sûr, Patrice Chéreau, bien sûr, Georges Lavaudant, Roger Planchon. Avec lui, Villeurbanne est devenue la capitale du théâtre populaire.
Villeurbanne doit devenir un pôle de référence pour croiser la scène, le plateau, l'image et l'écran, ajoute Rachida Dati, et ne parler ni de rapprochement ni de fusion.
Sur le statut, c'est et à la réflexion. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, oh là là, je ne dis pas fusion, je ne dis pas... C'est très libre. On a un objectif, c'est que ça coopère, ça se rapproche et que ça diffuse. C'est un sujet dont on parle beaucoup, par exemple avec Thomas Joly, qui a beaucoup réfléchi à ces coopérations.
Et malgré nos divergences politiques, nous partageons cela avec Madame la Ministre.
Cédric Van Stevendel, maire socialiste de Villeurbanne.
Sur le fait qu'à un moment, il faut plus d'argent pour la création, mais que ni Madame la Ministre, ni moi n'avons des planches à billets, et qu'il faut qu'on trouve des modèles économiques sur lesquels la diffusion doit jouer pour trouver des nouvelles marges artistiques.
Quand dehors, la CGT manifeste, Valérie Perriot-Morlac est responsable billetterie du théâtre.
Ce qu'on craint, c'est que l'ADN soit noyé, enfin disparaisse en gros avec le pôle Pixel. Ce qui nous inquiète aussi, c'est le personnel.
Et si le nom de Thomas Joly a été cité, le maire veut tempérer. Il y aura un appel à candidature, une nomination par le ministère dans les formes. La nouvelle direction du TNP sera nommée d'ici l'été 2026.
Ce changement majeur dans le monde du cinéma, le groupe Canal, gros financeur du cinéma français, entre au capital du distributeur des salles UGC. Le rachat de 34% du capital a été officialisé ce matin. UGC, 48 salles en France. Elle va quitter Hermès après 37 années passées à la tête des collections Hommes. La styliste française Véronique Nicagnan présentera en janvier prochain son dernier défilé pour la maison de luxe. Information du journal Le Figaro. J'ai encore des idées, dit-elle, mais à 71 ans, il est l'heure de passer le témoin. La maison Hermès, en pleine santé, a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 7% au premier semestre 2025. Là aussi, c'est du business et il est plutôt inattendu. Le journal Mundo Deportivo, toujours très bien renseigné sur l'actualité du FC Barcelone, nous assure ce matin que l'un des joueurs de foot les plus populaires de la planète, l'Espagnol Lamine Yamal, va désormais faire payer ses autographes. Il serait sur le point de les commercialiser via une entreprise. Henri de la Guérie, on vous retrouve en direct de Barcelone. Vous êtes allé ce matin à la rencontre des fans du Barça.
Oui, effectivement, et vous savez, comme à Paris ou à Marseille, devant les grilles du centre d'entraînement du Barça, des centaines de supporters se pressent tous les jours pour tenter d'obtenir un autographe. Parfois, des joueurs s'arrêtent, ils baissent la fenêtre de leur voiture et ils signent des maillots ou une photo. Sauf que ce n'est plus le cas de Lamine Yamal, à 18 ans seulement, celui qu'on commence à comparer à Lionel Messi. Snob son public, sa signature sera bientôt gérée par une société. En d'autres termes, pour obtenir un maillot ou une photo signée du joueur, il faudra mettre la main au portefeuille. Incompréhensible pour David Perramon, supporter catalan.
Tout est super calculé, trop monétisé. Ça me choque en plus. Mon fils commence à jouer au football, il a 7 ans. Quel exemple ? C'est ça pour mon fils par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est bizarre. Une chose que, c'est que tu ne veux pas signer 1000 autographes parce que tu as des choses à faire, ça, je peux comprendre. Mais s'il y a un petit gamin ou un supporter qui gentiment et que tu sors du stade, pourquoi pas, non ?
Oui, mais voilà, tous ceux qui demandent des autographes n'ont pas toujours de bonnes intentions. Se défend l'entourage du joueur, car ces autographes sont parfois, souvent même revendus. Ils se retrouvent sur le marché noir. Alors, Lamine Yamal préfère garder la main dessus. Il s'inscrit dans les pas des stars américaines de la NBA, comme LeBron James, par exemple, qui lui aussi commercialise sa signature.
Ah oui, ça se fait déjà donc aux États-Unis. Merci Henri de la Guérie pour ces précisions. D'une ville de foot à l'autre, de Barcelone à Marseille, Marseille où la statue de la Bonne Mère a donc retrouvé sa couronne ce matin après avoir été restaurée. Et c'est par les airs qu'elle est revenue, transportée par hélicoptère. Opération délicate qui marque la fin de 8 mois de chantier de rénovation de Notre-Dame de la Garde. Opération suivie ce matin pour nous par Mathilde Vinceneuf.
Suspendue par un câble dans une caisse de bois, la couronne de 150 kg est déposée à côté de la tête de la statue de la Bonne Mère, en haut des échafaudages, au point le plus haut de Marseille, 211 mètres d'altitude.
Oui, ça y est, c'est réussi.
La joie de Xavier David, l'architecte en charge des travaux de restauration de Notre-Dame de la Garde.
Plus que quelques gestes à faire et le chantier sera terminé. On va ouvrir la boîte pour l'amener exactement au-dessus de la tête. Le chaudronnier sera dans la tête pour qu'au moment où on pose la couronne, il puisse la boulonner.
La couronne redorée comme l'ensemble de la statue de la Vierge avec plus de 30 000 feuilles d'or. Cyrielle D'Antoni est l'une des doreuses qui a œuvré à cette restauration.
La couronne, c'est la finalité, c'est la dernière chose qui nous restait à dorer. Et là, on arrive à la fin du chantier. Maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est de l'avoir vraiment entière.
Voilà. Entière, au soleil.
Au soleil, brillante, parce que moi, pour l'avoir vue même avec la bâche enlevée et de près, je pense qu'elle va vraiment rayonner et on va être vraiment, entre guillemets, éblouis. Oui. C'est comme un phare.
Pour l'instant, on devine la statue brillante au milieu de sa cage d'échafaudage, des échafaudages qui seront démontés au cours des prochaines semaines.
Au soleil ou pas, on va voir ça dans un instant. Reportage à Marseille, Mathilde Vinceneux, 13h30 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, et bien précisément les prévisions météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, vous ne l'avez pas oublié, j'en suis sûr, Violette d'Orange est notre invitée. Elle publie Mon premier Vendée Globe aux éditions Gallimard. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour être avec nous, pour dialoguer avec elle. 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des cartes marines.
Oui, une carte marine, c'est plus qu'un outil pour se repérer, c'est un regard sur la mer entre science et poésie. Alors nous allons nous demander si pour comprendre la mer, il ne faut pas parfois s'y perdre un peu.
Et avec vous Frédéric, un duo.
Un duo d'humoristes, Eric et Quentin, qui sont sur scène en ce moment avec leur spectacle Papa, Papa, Papa. Et c'est de la musique électro qu'on va écouter avec eux. Pump Up The Jam, du groupe belge Technotronic. On va bouger, Jérôme.
Mais j'y compte bien, cher Frédéric, à tout de suite.
France Inter, 14h15, Mathieu Vidard.
Ce vendredi, l'écrivain et réalisateur Cyril Dion est notre invité au carré. À l'occasion de la publication de ses chroniques de la lutte enchantée, le camarade Dion revient sur les racines de son engagement.
La Terre au carré. Tous les jours à 14h15 sur France Inter.
Allô Romain ?
Oui ?
Je viens d'avoir un coup de fil de l'école, il paraît que Liam n'est pas arrivé.
Oh bah t'inquiète pas, ils vont venir le chercher.
Mais oui, mais non, c'est fini les vacances, on n'est plus chez Bellambra là.
On s'habitue vite au club enfant chez Bellambra. Avec la prise en charge des enfants avant et après les cours de ski, profitez de plus de temps sur les pistes. Et en ce moment, le ski jusqu'à moins 20% sur bellambra.fr. Bellambra Club, au plus vrai des vacances.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Legs Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée agréable.
Avec beaucoup de soleil, oui, alors quelques bémols malgré tout. Hein. De la baie de Seine vers le nord de la Seine et le nord-est, le ciel est plus variable, mais les éclaircies sont belles. Sauf sur le nord-Pas-de-Calais, là ça reste bien encombré cet après-midi. Des nuages bas peuvent résister sur le nord de l'Auvergne et le Val-de-Saône. Des nuages se développent sur les Alpes. Une petite averse est possible sur les Alpes-Maritimes. Même chose pour le sud de la Corse, pour les Pyrénées-Orientales. Un petit vent d'est se fait sentir sur les régions du nord. Et puis, côté thermomètre, un petit peu comme hier, 14 à 19 degrés sur la moitié nord jusqu'à l'Auvergne. Rhône-Alpes, toujours un cran au-dessus du sud-ouest à la Méditerranée, avec 20 à 24 degrés attendus cet après-midi. Et puis pour le week-end, changement de temps. Alors demain, du soleil, quasiment pour tout le monde, après dissipation des grisailles matinales. Mais retour de la pluie sur l'ouest dimanche et les perturbations vont se succéder la semaine prochaine.
Des vacances qui vont débuter sous la pluie. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Violette d'Orange.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver ici dans ce 13-14 qui a été votre maison pendant plusieurs mois, pendant 90 jours précisément. Les auditeurs vous ont écouté semaine après semaine raconter votre Vendée Globe, raconter votre premier Vendée Globe. Ils se sont attachés à vous et puis silence, et c'est normal après cette arrivée en fanfare au Sable d'Olonne. C'était il y a quelques mois, 90 jours pour faire le tour du monde et puis vous repartez pour une nouvelle aventure. Ce sera avec Samantha Davis dans quelques jours au départ du Havre. Ce sera pas dimanche, mais celui d'après, c'est la Transat L'Or, c'est la Transat du Café qui va vous amener en Martinique. On va en parler ensemble avec les auditeurs 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France. Et puis on va aussi parler de ce carnet de bord, Violette d'Orange, mon premier Vendée Globe. C'est aux éditions Voile Gallimard. Vous êtes d'ailleurs venu avec le carnet de bord originel.
Oui, c'est ça. Violette, c'est le vrai du Vendée Globe.
Vous allez nous en parler dans un instant. J'ai d'abord envie de vous demander comment ça va. Parce que c'est assez bizarre. On a eu des nouvelles de vous chaque semaine, ici
en
même,
quand
vous étiez très loin. Mm. Et maintenant que vous êtes toute proche, eh ben on n'a plus de nouvelles. Alors comment est-ce que vous allez ?
Je vais très bien. C'était une aventure complètement dingue. Et depuis mon retour... J'ai vécu encore plein de choses incroyables. Il y a d'abord une tournée médiatique un peu folle où j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai pu partager mon aventure à un grand public. Et puis après, j'ai eu la chance d'enchaîner directement sur un nouveau projet avec Initiative Cœur. J'ai pas changé de catégorie, mais presque, parce que je suis passée sur les bateaux à foil. Et donc là, c'est des bateaux beaucoup plus puissants, beaucoup plus vite. Et donc j'ai fait quelques courses et beaucoup d'entraînement pour me préparer pour la Transat Café L'Or, c'est traversée de l'Atlantique.
Vous êtes partie, vous étiez une inconnue pour le grand public. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Comment vous vivez ça, les sollicitations incessantes? On va dans les commerces, on se promène et des gens viennent vous voir avec le sourire sans doute, mais ils sont là et on vous parle.
Bah c'est sûr que c'est déstabilisant au début. On ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas trop quoi dire. Et puis petit à petit, j'essaye de m'y habituer, de me dire qu'à chaque fois, c'est... une personne qui me transmet un petit message, qui me donne de l'énergie pour la journée, pour bien commencer. Et j'essaye de bien recevoir chaque sollicitation. Et puis,
vous essayez de vous protéger quand même ? Un peu ou pas ?
Ça, c'est pas forcément les sollicitations de tous les jours. Mais oui, il y a eu des choix à faire. En fait, au début d'année, on a eu plein de belles propositions et on avait envie de dire oui à tout. Et puis parfois, c'était dur de dire non. Et à un moment donné, je me suis dit, cet été, j'ai voulu faire une petite pause avec
les
réseaux
sociaux.
Vous l'avez
annoncé sur les réseaux sociaux, vous avez dit, ouais. Vous ne me lirez plus sur les réseaux sociaux. C'était quoi ? C'était un trop-plein ?
J'avais besoin de déjà prendre des vacances. J'ai pris 3 semaines où vraiment j'ai coupé avec tout, les médias, les réseaux sociaux. Et puis j'avais besoin de l'annoncer aussi pour ralentir le rythme. En fait, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que les médias, c'est un mélange de tout. J'étais dans l'écriture un peu du carnet. Qu'il fallait publier, qu'il fallait qu'il soit prêt juste avant l'été. J'avais l'intégration dans le nouveau projet, plus les médias, plus les réseaux, plus les sollicitations de tous les jours par message. Et j'avais besoin de faire une petite pause pour me recentrer sur mes proches, mon repos et puis ma préparation de course qui arrivait.
Vous racontez aussi cela dans le carnet de bord parce que, alors il y a l'après Vendée Globe, il y a le Vendée en lui-même et puis il y a l'avant. Moi c'est presque ce qui m'a le plus intéressé parce que je vous connais un tout petit peu mais j'ai découvert beaucoup de choses et il y a beaucoup de moments où vous allez à la limite, vous poussez le curseur très très loin et puis il y a le besoin de se recentrer peut-être et de se dire... quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord ? Il y a les études, il y a le rêve du Vendée Globe, il y a la famille, il y a les amis. Et à un moment, ça fait beaucoup de choses.
C'est vrai que j'ai toujours aimé faire 1000 choses à la fois, aller vite dans les projets. Quand j'ai décidé de partir pour ma première traversée de l'Atlantique, quand j'avais 18 ans, normalement, je voulais faire 3 ans de préparation. Et puis, je suis partie en une année. J'ai toujours été un peu en mode accéléré. Et puis, parfois, je découvre un peu les limites et je me rends compte que je suis un peu fatiguée.
Je voudrais qu'on vous réécoute, c'était en 2020, parce qu'il y a la quête d'un bateau toujours plus grand. Ça, c'est quand même votre histoire, Violette d'Orange. En 2020, vous êtes sur un Figaro, la solitaire du Figaro, ça devient extrêmement sérieux. On a retrouvé cette archive, vous venez de terminer 30e de votre première solitaire.
Ah, c'était bien, je suis contente, ça a été génial, j'étais tout le temps en contact, il y a eu des moments où j'étais vraiment à l'attaque avec les plus expérimentés et j'ai adoré. J'ai essayé de dormir le plus possible parce que tout le monde m'a prévenu, tout le monde m'a dit mais fais gaffe tu vas être crevée et du coup j'ai vraiment fait attention à ça. J'ai même eu un moment où j'étais un peu trop fatiguée, où j'ai fait un petit sommeil pas contrôlé, où je me suis réveillée en panique et oh là là j'ai dormi. Sinon j'ai bien géré en général et puis là depuis mon arrivée je fais que ça, je fais des grasses mat, des siestes, je profite.
C'est un apprentissage en accéléré, cette trajectoire, Violette d'Orange.
Ah oui, vraiment. Ah là, depuis quelques années, c'est tout en accéléré.
Vous dites ça va trop vite, parfois ? C'est non. Vous qui le voulez, hein, quand même.
Ah non, non, c'est moi qui le veux. Non, et puis je suis très heureuse de ça. J'ai une chance incroyable et comme j'ai envie de faire 1000 choses dans ma vie, je suis très contente que ça avance bien et que ça avance vite parce que j'ai encore plein d'autres projets.
Alors, l'avant et puis ce Vendée Globe, vous pouvez nous parler de cet objet ? Vous êtes venue avec ?
Oui.
C'est votre carnet de bord ?
Bah, c'est mon carnet du Vendée Globe. Je l'ai emmené parce que forcément, le carnet a été publié le 9 octobre. Et en fait, tous les jours, j'écrivais sur une page. Et
il est bien noirci, hein ?
Oui, il y a un peu de tout. Et chaque jour, j'essayais de faire au moins un petit dessin. Il y a des jours où il y avait trop de vagues, donc je faisais un petit truc tout simple. Ou alors, je le faisais le lendemain. Mais voilà, ça, c'était vraiment mon petit confident pendant tout le Vendée Globe. Ça me permettait d'avancer. Et dans les moments durs, c'est presque mon coach mental, en fait. J'écris quand je vais pas bien et je me dis, mais il y avait ça qui était positif. Et puis, je suis pas très loin de tel objectif. Donc, allez, je continue d'avancer. Et en fait, je me motive moi-même en écrivant quand ça va pas bien. Et voilà, c'était mon petit compagnon pendant tout le Vendée. Et donc, il est repris quasiment à l'identique dans le livre qui est publié. Et on a gardé les mêmes dessins, même si c'était moche, on les a gardés.
On découvre Violette d'Orange, dessinatrice, dans ce carnet de bord. Ce que vous nous expliquez, c'est que ça vous a aidé de l'avoir avec vous. C'est comme si vous aviez quelqu'un avec vous, en fait, à bord, quelqu'un qui parlait.
Ouais, c'était ma petite routine chaque jour. Je savais que j'avais ça à faire. Et puis, ça me permettait de savoir aussi de me rendre compte de mon avancement. Au début du carnet, il y a une petite carte où chaque jour, je faisais un petit trait. Et je me disais, bon, bah là, je suis en dessous de l'Inde. Et ça me motivait beaucoup d'avoir ça. Et puis, pour moi, c'est un objet qui me rappelle, c'est mes souvenirs pour toute ma vie. Et puis, ce carnet, c'est l'objet qui racontera le plus fidèlement mon aventure du Vendée Globe.
Vous parlez de l'aspect mental, Violette d'Orange. On découvre ça aussi dans ce livre, dans ce carnet de bord. C'est à quel point ça a été un aspect très important pour vous et très très tôt parce que vous avez été suivie par une sophrologue.
Oui, depuis que j'ai 8 ans, j'ai une préparatrice mentale qui m'accompagne pour gérer le stress avant les départs, pour gérer les peurs, tout plein de choses. Et pendant que sur le Vendée Globe, on n'a pas le droit d'avoir le contact avec ces personnes qui peuvent nous aider sur le côté mental. Donc on est un peu face à soi-même et face à tout ce qu'on a appris les années précédentes.
Vous le conseilleriez aujourd'hui à des jeunes sportifs et à des jeunes sportives ? Parce que vous avez commencé à quel âge d'être suivi ?
À 8 ans.
8 ans ? Ouais. 8 ans déjà, vous faisiez du coaching en quelque sorte ?
Oui, c'est ça. Je partage juste mon aventure. C'est pas un livre pour coacher, mais c'est simplement...
Non, mais à la lecture, je me suis dit, 8 ans, c'est extrêmement jeune pour ça, mais manifestement, ça vous a beaucoup aidé à grandir.
Oui. Il y a plein de petites clés où parfois, j'essaye, quand j'ai des passages très difficiles, dans des tempêtes ou dans des galères, j'essaye de me rassurer en me raccrochant au moment présent. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça dans le carnet.
Est-ce que le Vendée Globe vous manque ? Aujourd'hui, Violette d'Orange, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « là, j'en verrais bien tout balader pour partir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois »
Oui, non. Non, parce que je suis très contente d'avoir terminé le Vendée Globe et je rêve de le refaire en 2028. Et puis, en quelque sorte, je suis contente de retourner au large là, dans 10 jours. Je pars faire la traversée de l'Atlantique et ce large m'a un peu manqué. Donc, je vais l'avoir sur deux traversées de l'Atlantique puisqu'on fait la course et puis le convoyage retour.
Qu'est-ce qui vous manque ? Dans la vie au large
C'est déjà le fait d'être concentré sur une seule chose, faire avancer son bateau, la compétition, les concurrents. Et la vie est simple à bord, en quelque sorte, dans le sens où on a que ça à penser. Et puis souvent, c'est ce que je raconte un peu dans le carnet, j'ai un peu un regard où sur ma vie, j'y vois hyper clair. Je vois mes priorités.
Vous faites la liste des priorités. Ce que je vais faire quand je vais rentrer au Sable d'Olonne.
Oui, c'est
moment,
vrai.
Et à un moment, je me suis dit, mais elle fait ça, mais elle rentre dans 15 jours. Non, c'est deux mois avant, voilà. Voilà ce que je vais faire. Comme si les sables étaient à quelques milles.
C'est vrai, ça me permet d'avancer, d'avoir toujours des objectifs, toujours des rêves pour après. Et ça me permet d'avancer dans le moment présent. Et c'est ce que je raconte un peu.
Est-ce que vous avez des nouvelles des autres skippers ? Est-ce que vous parlez entre vous ? Est-ce que vous échangez entre vous ?
Oh bah oui, on se croise. Là, il y a une nouvelle course qui va partir dans 10 jours. Donc, on s'est déjà tous vus hier à la conférence de presse. Et on s'entraîne ensemble aussi.
Vous avez entendu ici même Charlie Dalin, la semaine dernière, parler pour la première fois du cancer avec lequel il a fait le tour du monde. Cancer des intestins, il continue à se soigner. Comment est-ce que vous avez accueilli son témoignage? Peut-être vous étiez, vous, au courant un tout petit peu avant qu'il vienne l'annoncer au grand public la semaine dernière. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez appris cette nouvelle?
Non, je ne le savais pas, je l'ai appris comme tout le monde. Et c'est... En fait, ça force le respect. C'est... Enfin, je me dis, il a dû avoir tellement de courage pour prendre le départ et puis pour mener cette course aussi bien. Enfin, franchement, il a fait une course magnifique et c'est un modèle pour nous tous. Et voilà, tout simplement, moi, j'aimerais lui... j'espère juste qu'il va pouvoir se rétablir le mieux possible et je lui partage toute ma force, toute mon énergie et voilà, c'est en tout cas j'ai un énorme respect pour Charlie.
Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur les priorités de la vie parfois quand on quand l'un de nos proches ou quand on connaît quelqu'un ou qu'on est attaché à quelqu'un et qu'on apprend qu'il est malade, ça nous bouleverse, ça change des choses dans nos priorités. Est-ce que ça a été votre cas?
Je suis toujours assez éveillée là-dessus. Je me dis qu'on a énormément de chance d'être en bonne santé et d'être dans ce milieu de course au large. Enfin, moi, je suis très, très heureuse de ce que je fais, mais je me rappelle en permanence que j'ai énormément de chance. Mes proches vont bien et voilà, il faut en profiter tant que c'est là. Et puis, quand on est face à ça, il faut continuer d'avancer, évidemment. Mais voilà, je m'en rends compte de cette chance.
Il y aura un autre Vendée Globe, parce que le titre, c'est « Mon premier Vendée Globe ». Vous êtes déjà sur le projet.
Oui. Oui, j'ai tellement aimé ce Vendée Globe. Je me sentais bien sur mon bateau. J'ai adoré le voyage, découvrir les mers du Sud, traverser les tempêtes. Même si c'était dur, c'était magique.
Donc l'impatience est extrêmement grande de repartir au large. Vous nous l'avez dit, c'est dans 9 jours. La Transat Café L'Or, c'est l'ex-Jacques Vabre, entre Le Havre et la Martinique. Et puis, ça se passe avec l'idole, peut-être l'une de vos navigatrices modèles, si je puis dire. C'est Samantha Davis qu'on a sollicité il y a quelques jours.
Elle a beaucoup de qualités sur le bateau. Déjà, une chose que j'adore, parce que je suis comme ça aussi, c'est qu'elle est juste hyper heureuse d'être là. Elle adore ça, ça se voit tout de suite. Quand on parle large, en fait, on découvre les vraies personnes, en fait. Donc, j'adore ça. Mais elle est aussi travailleuse. Elle a un super feeling pour le bateau. Donc, elle est naturelle. Quand elle prend là-bas, elle sent le bateau tout de suite. Elle travaille beaucoup, elle prend des notes tout le temps, elle n'oublie rien, donc elle a beaucoup de qualités. Et surtout, elle est passionnée, elle a vraiment envie d'aller haut et loin.
Samantha Davis, votre co-skippeuse sur Initiative Cœur au micro d'Emma Sarango. C'est vrai, vous avez toujours l'autographe de Samantha Davis?
Elle m'avait signé un t-shirt quand j'avais autour de 8 ans, quelque chose comme ça. Alors le t-shirt, je ne sais plus où il est. Mais oui, c'est incroyable. Sam, pour moi, c'est l'une des femmes qui m'ont donné envie de faire de la voile. Et en voyant Clarisse Kremer, Hélène MacArthur, Samantha Davis, pour moi, c'est un peu ces trois rôles modèles. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux faire de la voile, même si je suis une femme dans un milieu masculin. Allez, on peut y aller. Et du coup, aujourd'hui, naviguer avec elle, c'est incroyable. Et puis, elle a une telle expérience. Elle m'a dit hier qu'elle a dû faire à peu près 38 transats, donc traverser de l'Atlantique, à peu près 6 tours du monde. Donc j'apprends énormément à ses côtés.
Mais vous vous considérez comme son égal aujourd'hui? Chacun a une voix aussi importante à bord? Comment ça se passe?
À bord, donc c'est elle la skippeuse du bateau.
Celle qui décide?
C'est pas... Les grosses décisions, on va les prendre ensemble. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir les deux regards, les opinions, etc. Et de travailler ensemble, parce qu'on est meilleur, on est plus intelligent à deux. Et par contre, quand on prend une décision, on la suit toutes les deux, même si on n'était pas d'accord, on suit la décision prise. Et puis enfin, tout ce qui est grosses manœuvres, on va les faire ensemble. Et le reste du temps, en fait, un coup adore. Moi, je suis chef à bord. Et après, c'est l'inversement. Enfin, c'est il y en a un qui gère le bateau quasiment en solitaire pendant que l'autre dort.
Les décisions à prendre, ce sont les caps. Et je suppose que vous servez de carte Les cartes marines, c'est le sujet qui vous a inspiré aujourd'hui, Virginie Troussier. Je vous ferai réagir, Violette d'Orange, dans un instant. Virginie, vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, vous êtes avec nous tous les vendredis. Vous nous parlez des cimes et des océans. Aujourd'hui, évidemment, ce sont les océans, on l'a compris. Vous nous conseillez, Virginie, de nous rendre au domaine du Rayol. C'est dans le Var, puisque l'artiste Marine Le Breton y expose actuellement ses cartes du littoral. Elles sont toutes dessinées à la main.
Sur les murs, des réseaux de traits noirs et des immensités bleues dessinées à la pointe fine. À première vue, une précision scientifique, toponymie, courbe bathymétrique qui décrivent le relief des fonds marins. Tout a été réalisé d'après les données du Service national d'hydrographie et d'océanographie et de l'IGN. Mais plus on s'approche, plus la rigueur se trouble, on perçoit la respiration du trait. Le dessin devient territoire intérieur, mer mentale, espace où le sensible s'invite dans la mesure. Marine Le Breton porte un nom prédestiné. Cet artiste a tout quitté il y a quelques années pour se consacrer à la cartographie marine et elle aime particulièrement les côtes bretonnes, ses morcellements, ses méandres qu'elle compare à des boyaux, des schémas d'organes. Dans cette pratique minutieuse, tout devient résistance à la vitesse, à la dématérialisation, à la disparition du geste. Chaque carte est un rappel du lien fragile entre la main et le monde.
Alors une carte, est-ce de la géographie ou bien est-ce de la poésie ?
Eh bien si l'on remonte au XVe siècle, les portulans, les premières cartes de mer, mêlaient imagination et science. Les cartographes comblaient les espaces inconnus de monstres marins, signe d'une mer encore mystérieuse et divine. Ces parchemins d'antan trouvent un écho chez Marine Le Breton, car sa démarche pourrait rejoindre ce qu'on appelle une géopoétique, une pensée du paysage, une géographie qui relie la connaissance scientifique au sentiment d'habiter la Terre. Elle-même revendique cette approche, comprendre le monde à travers les rencontres, le regard des habitants. Ces cartes me rappellent ces navigateurs polynésiens qui s'orientaient en ressentant dans leur corps les vibrations de la houle. Ils lisaient la mer avec la peau, avec le ventre. Une connaissance viscérale qui se rapproche de la sensibilité de Marine Le Breton. Cartographier pour elle, c'est relier le savoir aux émotions.
Est-ce qu'on peut encore dessiner, Virginie, un monde qui ne cesse de changer ?
Eh bien, en effet, Jérôme, à travers les dessins, on apprend l'instabilité de notre planète. Montée des eaux, côtes qui s'érodent. Le nord magnétique, celui que les boussoles indiquent, ou les compas de navigation, dérivent de plusieurs kilomètres par an, obligeant à réactualiser les cartes. Les corrections s'appellent la déclinaison magnétique, elles sont notées directement sur les cartes marines. Le nord magnétique, situé pour la première fois en 1831 dans le nord du Canada, devrait atteindre la Sibérie en 2050. Nos repères sont fragiles, le temps les déplace. Les cartes relient le proche et le lointain, traduisent des mémoires et des projections. La carte, c'est donc le voyage avant le voyage.
Cartographier la mer, est-ce que c'est pas au fond apprendre à s'y perdre ?
La beauté d'une carte marine peut vous perdre, comme on se perd dans un roman. Le philosophe des éléments Gaston Bachelard disait que la mer donne des contes avant de donner des rêves. Les cartes racontent des histoires et nous transforment en explorateurs. On se projette dans un lieu, on s'en fait une idée, on s'y aventure. Avec un bout de papier, on déplie une baie, un fragment du monde et une infinité de possibles. Le doigt suit le trait de côte comme on suit une ligne de vie. Et dans un monde saturé de GPS et d'algorithmes, les cartes en général et celles de Marine Le Breton ne disent pas où aller, elles apprennent à regarder.
Merci Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce C'est la France, Violette d'Orange. S'orienter en ressentant dans son corps les vibrations de la houle, nous dit Virginie, ça vous parle ?
Bah, ce qui me parle surtout, c'est le voyage un peu de l'imaginaire, le fait de se projeter. C'est vrai que pendant tout mon Vendée Globe, au final, j'ai vu que les Sables d'Olonne réellement, on va dire, comme terre, parce que je suis partie des sables, c'est sans escale, retour aux sables. Mais par contre, je suis passée par tous les océans et à chaque fois que j'avançais, tous les jours, je faisais un petit point en longitude où je me disais, bon, bah, là, je suis au sud de l'Inde, là, je suis au sud de la Chine. Et au final, je me projetais vachement sur tous les pays que je rencontrais. Donc je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites.
Merci à toutes Merci. Les deux. Merci Violette d'Orange d'être passée par ce 13-14. On a été très heureux de partager de vos nouvelles avec les auditeurs. Violette d'Orange, mon premier Vendée Globe. Votre carnet de bord, c'est aux éditions Voile Gallimard. Et puis on vous suit aux côtés de Samantha Davis dans cette transat. C'est dans 10 jours maintenant, 9 précisément, au départ du Havre. Merci beaucoup.
Merci.
13h53 sur Inter. 13h53, avec vous, Frédéric Piomier. C'est une chanson aujourd'hui. Éric et Quentin. C'est comme Samantha Davis et Violette d'Orange. C'est un duo vous avez rencontré.
Un duo d'humoristes, en l'occurrence. Éric Metzger et Quentin Margot, qui jouent actuellement leur spectacle Papa, Papapa au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Et c'est Pump Up the Jam du groupe Technotronic qu'ils ont souhaité que l'on écoute. Un tube rempli de souvenirs.
Bon, déjà, il y a l'enfance, la préadolescence, en fait. C'est le moment où on découvre un peu des musiques qui bougent. Et Pump Up the Jam, moi, ça m'a révélé plein de choses et ça m'a amené à écouter plein d'autres choses, notamment découvrir la house music, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et de manière commune, Eric, oui, c'est que c'est une chanson qu'on met dans notre spectacle.
Tout à fait, sur laquelle on danse.
Voilà.
Et moi, mon souvenir d'enfance, c'est que à l'époque, il était diffusé sur une radio, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelait Radio Maximum. Et j'écoutais ça avec ma mère dans la voiture, qui clopait à fond. Ouais, parce qu'à l'époque, elle clopait beaucoup dans la voiture. Et c'était des souvenirs très joyeux. Bon, depuis, je tousse beaucoup. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, on s'habitue.
Et puis, c'est un peu le morceau qui a déclenché ce qu'on a appelé l'Eurodance. Et les fameux Dance Machine, quoi, où il y avait des concerts à Bercy.
J'avais les CD, moi.
Ouais, c'était
le Dance 90, 91, 92, 93, 94, 95.
Ah oui.
Le Dance Machine Gold, j'avais
tout. Tu étais fan,
moi.
Apparemment.
Ah, moi, j'étais très, très dance.
Mais tu danses bien, d'ailleurs, Eric.
Je danse bien, dance. Ouais, j'avoue. Mm.
En fait, Eric est resté bloqué cette période, j'ai l'impression.
Totalement. Même ma coiffure est bloquée là-dessus. Ouais. Tout est bloqué, quoi. Mes vêtements sont bloqués aussi dans les années 90. C'est ma machine à remonter dans le temps.
C'est quoi votre style vestimentaire ?
Moi, j'en ai pas. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
C'est en 1989 qu'est sorti ce morceau, Frédéric.
Oui, mais alors il nous raconte quoi, ce morceau ? La réponse d'Éric et Quentin.
En fait, de jam, c'est la musique, c'est le son, en fait.
Oui.
Ça veut dire pousse le son, en fait. On pourra dire ça. Hey, pousse le son, pousse le son.
Ce qui est une figure de style, parce qu'un son ne se pousse pas. Mm. Hein, évidemment, c'est le volume. On pousse le volume du son.
Ouais, c'est ça, pop-up de jam. Mm. C'est fête la fête.
Éclatez-vous, putain.
Envoie la sauce.
Envoie
la sauce.
Exactement. Qui est une autre métaphore.
De cuisine même.
Évidemment, évidemment.
Et vous arrivez de l'écouter encore, cette chanson ?
Ouais.
Ah, carrément, oui.
Et c'est une des chansons, moi je me demande, lasse pas en fait. Je peux l'écouter tout le temps.
C'est vrai, même en boîte, c'est l'intro, elle fonctionne très bien. Tout le monde devine ce que c'est, il y a des cris qui commencent, ça monte petit à petit, c'est parfait. Faudrait tester un enterrement, voir la réaction des gens.
Bah, tu sais quoi, je la mettrais moi, mon enterrement.
Ouais, au tien, tu l'entendras pas.
Bah c'est pas grave, c'est pour les autres.
Ah, c'est pas con.
C'est altruiste.
Ouais, c'est bien.
Vous y avez déjà pensé aux musiques de votre enterrement ?
Franchement, ouais. Je pense avoir une petite playlist en tête.
Et vous, Eric ?
Moi, je pense pas mourir.
Vous aimez danser, tous les deux ?
Oui. Ouais. J'adore danser.
On aime danser, ouais. On aime danser.
On danse comment sur ce titre-là ?
Ha, bah, les bras en l'air.
On saute.
C'était des danses bizarres un peu dans les années, un peu saccadées.
Avec les épaules d'un côté et de l'autre, il y a un peu de déhanché quand même.
Ouais. Mais aussi, tu peux rester immobile sur cette chanson.
Oui, mais c'est une crise de titanie. Là, il faut appeler les pompiers si tu bouges plus sur cette chanson que tu regardes tout droit. N'avale pas ta langue. Quoi.
Non. Tu dis une crise de titanie, toi.
Ouais, ouais. Titanie, c'est beaucoup plus fort que la tétanie.
D'accord.
La tétanie, c'est le stade 1. La tétanie, c'est le stade 2.
Je connaissais pas.
Et la Toutanie, ce serait quoi ?
C'est
un pays où il n'y a que des meufs qui s'appellent Annie.
C'est bien,
voilà,
ça.
C'est la Toutanie.
C'est très très bien, ça. C'est très très bien, ce pays.
C'est situé de quel côté, la Toutanie ?
À droite de la Belgique et juste au sud de l'Afrique.
Et surtout, c'est un pays où il n'y a pas de fiscalité. Aucun impôt.
Et tu retrouves beaucoup d'hommes politiques là-bas. Et bam !
Vous n'avez pas peur ?
Non.
Pas peur de dénoncer ?
Non, alors ça, là, on peut dire la guerre, c'est mal. Mm. La paix, c'est bien.
Faut la paix, d'ailleurs. Mm. D'ailleurs, pour avoir la paix, faut écouter Pump Up the Jam.
Mm. C'est vrai.
Ben ouais, faut écouter de la musique, en fait.
Si le monde écoutait Pump Up the Jam, je pense qu'il se porterait mieux.
Tout à fait, c'est vrai.
C'est vrai ? Les gens, ils danseraient plutôt que faire la guerre.
Yo.
Technotronic, Pump Up de Jam. C'était donc le choix d'Éric et Quentin.
Éric et Quentin, que vous pouvez retrouver chaque lundi au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Ils dansent sur ce titre-là. Et ils jouent surtout leur spectacle Papa, 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 spectacle qu'ils donnent également en tournée très bientôt.
Et ils sont aussi à la télé. Canal 19 de la TNT, Novo 19, dans le talk de Claire Arnoux. On a du nouveau. Merci Frédéric et à lundi. L'équipe du 13-14, cette semaine, à la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Lionel Thompson et Sébastien Sabiron, assistés de Nicolas Sabat, Rachid Zourdani, Joseph Ascal, Sylvain Lesage et Swad Bellani. Je remercie aussi nos techniciens Élise, Christophe et Florian de Rimini, ainsi que notre chargé de programme Camille Poux-Jalaguier et nos standardistes. À suivre Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire.